Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
On préfère vous prévenir tout de suite, notre invité du jour risque de souffrir de décalage horaire. 11h30, c'était pas du tout son horaire.
Non, lui il est habitué à parler à 20h ou plutôt à 19h58 quand retentit ce générique.
Bonjour Gilles Boulot.
Oh, bonjour à vous. Merci de m'inviter à cette soirée hyper matinale.
Oui.
Est-ce qu'il y a toujours une petite montée d'adrénaline quand vous entendez ce générique du 20h?
Ben oui, je devrais pas le dire, mais j'ai une forme de trac quelquefois.
Même après plus de 10 ans au 20h de TF1,
ouais,
vous existe ce trac?
Je sais pas, il y a de la tension au bon sens du terme. Quelquefois vous êtes un peu fatigué, quelquefois vous dites oh, « si je bafouille maintenant, je vais avoir l'air d'un nul hein. ». Et évidemment, c'est là que vous bafouillez.
Gilles Boulot, on est ravis de vous recevoir. Merci d'être là.
Alors, votre journal est le plus regardé de France. En moyenne, 5,5 millions de téléspectateurs, ce qui représente 26% du public. Alors, autant de monde qui vous regarde, vous y pensez ou ça va?
Pas trop, en fait. J'ai discuté un jour avec un chanteur. Et il me dit, oh là, j'ai eu le trac hier. J'étais dans une salle, la jauge, c'était 600 personnes. Oh, moi, je serais tétanisé devant 600 personnes. Là, j'ai... mon copain chef de plateau, le caméraman.
Vous n'êtes pas si nombreux que ça en plateau.
Ah ben non. Ma fidèle prompteuse, le jeune homme qui est assistant, qui est génial. Bon ben voilà quoi.
Gilles Boulot, on a une heure pour refaire votre télé, votre parcours et ça commence par un petit jeu.
Archive ou archifo?
On affirme des choses sur vous. Si vous pensez que ça a vraiment existé, vous nous dites archive. Sinon, vous nous dites archifo.
Par exemple, un jour, vous avez tutoyé Claire Chazal à l'antenne. Archive ou archifo?
On s'en mêle tellement les pinceaux, c'est possible. Oui.
Bah oui, vous
je le savais ou je pensais être hors antenne? Dites-moi,
non,
parce
non,
que je
non,
m'en souviens
c'est,
plus.
C'est une archive, vous allez voir. En tout cas, c'était l'impression qu'on avait eue.
Bon.
C'était lors d'une soirée électorale.
Nous allons essayer de retrouver un autre de nos envoyés spéciaux dans Paris. Peut-être l'avons-nous en ligne. Gilles Boulot, est-ce que vous êtes présent avec nous? Oui, Gilles, nous vous apercevons. Vous surplombez cette place de la Bastille, Gilles Boulot.
J'entends pas du tout ce que tu me dis, mais tu me dis quelque chose, là?
Alors oui.
En fait, vous parlez sans doute à quelqu'un qui était en régie pour tenter de régler un problème technique.
Je vais parler au chef de car, mais par ailleurs, je tutoyais Claire. Donc,
oui, mais jamais à l'antenne.
L'ambiguïté.
Ça, vous ne l'auriez jamais fait, Gilles Boulot, car vous êtes d'une classe absolument irréprochable.
Oui, au point de ne pas vouloir annoncer le titre d'un film contenant une grossièreté. En l'occurrence, le dîner de cons.
Et votre soirée continue avec un film de Francis Weber, avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Nous sommes votre Jean Poli, je ne vous donnerai pas le nom du film. À demain.
Vu la musique derrière vous, je dirais que c'était lors d'une soirée électorale.
Mais oui.
Et vous n'alliez pas vexer, en fait, quelqu'un autour de la table?
Mais oui, dans la vraie vie. En fait, je me fixe des paris stupides, en espérant que des gens remarqueront. C'est qu'à la fin de chaque soirée électorale, j'en ai fait beaucoup avec Claire, et puis avec Anne-Claire depuis quelques années, il y a toujours des films sur TF1. Et j'essaie toujours de trouver un jeu de mots stupide, en général, qui tombe totalement à plat, qui ne fait rire que moi, sur... Voilà, j'ai trouvé une correspondance, genre... je sais pas, Braveheart ou...
Là, le dîner de con.
Le dîner de con, voilà.
Quelle programmation.
Voilà, j'ai essayé de... Et ça me fait... Voilà, c'est toujours un peu tendu, les soirées électorales, il faut se marrer un peu. Hein.
N'empêche que vos textes, vous y apportez beaucoup de soin, car vous le savez mieux que quiconque. Dans un 20h, chaque mot compte. Est-ce qu'il est vrai que vous êtes toujours en train de raturer vos textes quelques secondes encore avant le début du 20h?
Non, pendant le 20h. Pendant le 20h, je rature, je refais, je biffe, je suis jamais content. Je suis jamais content de ma copie. Je dis non, là, c'est trop gras. C'est Simenon qui faisait ça, là. Il passait une semaine, quand il écrivait ses bouquins, il passait une semaine à biffer avec ses crayons. Il dit non, j'enlève le gras. Il dégraissait le bouillon. Je dégraisse le bouillon.
Et vous dégraissez le bouillon même pendant le direct? Ça veut dire que...
Bien sûr.
Vous faites modifier vos textes du prompteur pendant...
Je passe mon temps. Ma camarade prompteuse, elle est à 4 mètres de moi. Je passe mon temps, non pas à lui crier dessus, mais parce qu'il y a du bruit, il y a l'antenne, mais dire bon, alors tu mets ce mot-là à place de ce mot-là. Et donc, je massacre une forêt norvégienne par journal puisque j'imprime. Après, je fais recto verso quand même. Hein.
Allez, autre archive ou archifo.
Michel Sardou qui vous lance en pleine interview que vous avez pris un peu de poids. Archive ou archifo?
Attendez. Non, mais ça, c'est un truc incroyable. C'est vrai et faux. Il me dit surtout, mais t'es qui toi? T'es gros comme un haricot vert. C'est plus ça.
Ah donc c'est l'inverse.
Mais c'est énorme.
C'est exactement énorme. L'inverse.
Elle est dingue cette interview.
Écoutez.
Merci beaucoup Michel Sardou. Bon,
dis-moi Gilou, tu vas quand même pas faire des cures de thermo...
De thalassothérapie?
Parce que t'es maigre comme un clou.
Non, je vais plutôt me remplumer que de faire ça.
Ah bon, d'accord. Ouais.
Dans le public, les gens se reconnaissent un peu. T'as beau présenter 20h, Gilles, t'es un petit peu faux cul aussi de temps en temps.
Oh non, en principe, je dis la vérité.
Non, mais pas aux 20h, mais dans la vie, on est tous un peu faux-cul, on est bien obligés.
Personne n'est parfait.
Michel Sardou qui vous tutoie et vous appelle Gilou, c'est le seul invité à faire ça, non?
Ah non, mais c'était génial. Il m'a mis minable ce jour-là. Je ne connaissais pas Michel Sardou.
C'est votre première fois?
Et on me dit, tiens, voilà, il va faire une tournée, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'ai écouté Sardou par cœur quand j'étais gamin. Je dis, oui. On me dit, ouais, enfin, Sardou, quand même, pour beaucoup de gens, c'est un réac, etc. J'ai dit, mais il a un talent incroyable, je me fous de ses opinions politiques. Au contraire, il vient, on se serre la main, on se vouvoie. Enfin, on n'a pas élevé les petits cochons ensemble, quoi. Et arrivent les titres. Et je fais les titres, et il y avait un titre sur le ras-le-bol fiscal. J'étais face caméra.
Ah, c'était pour lui, ça.
J'avais Sardou à 2 mètres de moi, il avait lu tous les journaux, écouté toutes les radios, et il me sabote les titres. Pendant les titres. Et quand on peut président, François Hollande, il a estimé que la charge fiscale, j'entends. Ah, mais quel gros nul, celui-là. Pendant les titres.
Ah, il commentait de façon
pendant
chaud.
Les titres.
Il a fait du
pour
Sardou.
Pour me déstabiliser de Sardou. Je lui dis, oh, je vais prendre cher. Arrive le journal, blablabla, arrive l'interview de Sardou. Et là, tout part en sucette. Pour le meilleur, évidemment, c'était génial. Et à la fin, il me dit, mais t'es crédible, toi? T'as vu comment t'es gaulé, comme un haricot vert? J'ai failli l'embrasser sur la truffe après, tellement c'était génial. C'est un très bon souvenir, hein, parce qu'il se passe un truc, faut qu'il se passe un truc pendant les interviews.
Oui, parce que parfois, il se passe moins de choses. Votre pire interview, c'est Mel Gibson.
Oh la vache! Mais c'est une non-interview. Mais c'est...
Il se passe quoi?
Oh là là, là, là. J'étais à Cannes, j'ai fait beaucoup de festivals de Cannes, et je vais au Cap d'Antibes, et Mel Gibson était dans un film, j'ai oublié lequel, enfin bref, qu'importe, et j'y vais... Et il était mal luné. J'ai appris des années plus tard qu'il carburait pas toujours à la limonade le matin. Enfin bref, il était mal luné. Je pose une question dans un anglais que je pensais correct, qui était correct. Et puis, il le prend mal. Et puis, il retourne sa casquette. Il dit « What the fuck ?» Et il se
ça,
barre.
Ça, c'est pas bon signe.
Et il se barre. Et donc, sur la cassette, en tournant en cassette, mon interview de Mel Gibson, il y a une mire de barre et un mec qui dit « Mais what the fuck ?»
Elle a duré donc 3 secondes.
Ah, mais il n'y a pas d'interview.
Il y en a qui ne s'ouvrent jamais en interview, malgré tous vos efforts. Vous voyez que vous avez beau frapper à la porte, elle ne s'ouvre pas, quoi.
Oui, il y en a qui ne s'ouvrent jamais. Il y a des politiques aussi qui ne s'ouvrent jamais, qui se surprotègent. Il faut être deux pour danser le tango. Il y a des mauvais danseurs, ils ne veulent pas. Ben voilà, mais c'est un échec. À deux, j'échoue et il ou elle échoue. Donc voilà, c'est du temps perdu pour sa promo, etc. J'en suis pas fier, puis j'essaie d'éviter ces mauvais coucheurs.
Gilles Boulot, on va maintenant parler de quelques interviews qui, pour le coup, vous ont laissé un souvenir absolument indélébile, pour le meilleur, mais aussi, désolé, pour le pire.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le tirage de la météo, Devine Delia. Le tirage de la météo, Devine Delia.
Le tirage de la météo. Je savais pas, en fait, Gilles Boulot, Devine Delia, tirer les températures au sort, c'est comme le loto, un peu.
Mais oui, il fait beau, ça va. Mais ouais, moins 4 à Nogent le retrouve, plus 17 à Marseille.
Et le 24 pour Toulouse, voilà, vous pouvez faire
mais
votre grille.
Oui, le 17 à Nantes. Ouais, voilà, sur les pinceaux.
Evelyne Delia, votre complice depuis de nombreuses années, il paraît qu'elle vient vous faire un petit coucou au maquillage tous les soirs.
Ouais, elle vient et puis on a noué une amitié incroyable pendant le Covid. On faisait une petite séquence après le journal, un reportage qui s'appelait 20h le mag et elle intervenait dedans. C'est une femme géniale, voilà, bah, je l'embrasse. Je t'embrasse Evelyne.
Je reviens au maquillage, rare moment de pause pour vous pendant cette journée qui a un rythme absolument infernal avec, je crois, une petite sieste juste après le déjeuner.
Quelquefois je coupe mon portable pendant 10 minutes, je mets mon réveil sur le portable et je fais une très longue sieste entre 8 et 10 minutes.
Gilles Boulot, vous aimez courir, ça tombe bien, avec ce 20h vous êtes servi. C'est une perpétuelle course contre la montre que la préparation de ce JT, car il faut le rappeler pour ceux qui en douteraient encore, la journée de travail du présentateur du 20h ne commence pas à 19h59. Vous arrivez à quelle heure à TF1 le matin?
Entre 9h et 9h15. 9h15 et
j'ai... C'est la première conférence de rédaction à cette heure-ci?
Oui, enfin, on a déjà beaucoup échangé avec mon rédacteur en chef avant, mais j'attaque à 7h du matin chez moi. Je fais plusieurs journées, je fais 7h, 9h, 9h15 jusqu'à 21h30 à TF1. Oui, c'est des longues journées. Mais un jour, je fais un peu de course à pied. Et un jour, j'avais dépassé un mec à l'arrivée à Marseille. Il me dit, bah, évidemment, tu as tout le temps de t'entraîner. Et son copain dit, pourquoi? Il arrive à 19h30. Ah, ça m'a gonflé, ça.
Alors, Gilles Boulot, on va maintenant revenir sur quelques interviews marquantes qui figurent en bonne place dans votre CV TV.
Le CV Télé.
À vous de deviner de quelle interview on va parler grâce à nos indices. Alors, par exemple, si je vous dis Bégonia, est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Bégonia, on va parler de ma vie intime, ça évoque ma vessie.
On est en Russie.
Ouais, on est à Sochi et c'est... Bon, faut tout dire ou pas?
Ouais, c'est toujours mieux.
Oui. Bah, c'est une irrépressible envie de faire pipi et on était à Sochi dans la résidence de Vladimir Poutine et on était avec Jean-Pierre Elkabbach et on attendait depuis des heures.
L'arrivée du chef du Kremlin.
L'arrivée du chef du Kremlin qui était là mais qui voulait nous faire poireauter. Et donc, il n'y avait plus de toilettes, enfin, c'était pas du tout prévu pour une équipe de télé. Et je suis sorti, il y avait une plate-bande et donc je suis allé faire pipi sur les bégonias de Vladimir Poutine.
Combien d'heures de quasi-détention ?
On a attendu, avec Jean-Pierre, je crois qu'on a attendu 10 heures. C'était prévu à 14 heures, on a attaqué l'interview, il était un peu avant 1 heure du matin.
On rappelle que vous étiez donc avec Jean-Pierre Elkabbach, c'était en 2014, et à l'époque, il était déjà question de l'Ukraine.
On imagine mal que vous ne parliez pas l'un avec l'autre. D'autant plus qu'on a un besoin impérieux, puisque la guerre n'est pas très loin, à quelques centaines de kilomètres d'ici.
D'abord, je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche ? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde ?
Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici.
Et alors ?
Quand Poutine vous dit « vous êtes un journaliste un peu agressif », ça vous glace pas les sangs ? Vous dites pas « je vais avoir des problèmes là » ?
Si, et surtout quand il me dit après « la question que m'est posée, aucun journaliste russe n'ose me la poser ». Ça veut dire qu'il ne se cache pas derrière une fausse gentillesse. C'est pas un dictateur qui essaie de devenir un démocrate.
Il dit. Il vous dit d'ailleurs, je crois, heureusement que vous n'êtes pas russe.
Voilà, il me dit, vous avez vu qui je suis ? Donc voilà. Et donc il vous transperce de ses yeux bleu clair, là, et il essaie de vous intimider. Mais avant ça, je vous disais tout à l'heure avec mes aventures de pipi dans les bégonias, c'est-à-dire qu'avant, il vous épuise.
Aujourd'hui, vous aimeriez de nouveau pouvoir l'interviewer ?
Ah oui, tout de suite, immédiatement.
Ce serait quoi votre première question à Poutine ?
Est-ce que vous avez peur de finir au tribunal pénal international ? Comme Milosevic, votre copain. Et de finir seul dans une cellule, souffrant autant que vous avez fait souffrir les peuples.
Autre interview, autre indice pour vous mettre sur les pistes.
Une citation de l'intéressé qui, après son passage sur votre plateau, avait déclaré « Gilles Boulot n'a pas fait son boulot ». Vous voyez de qui on parle ?
Éric Z.
Tout à fait, Éric Zemmour, que vous aviez reçu juste après sa déclaration de candidature à la présidentielle. On l'écoute, bien sûr.
Vous n'allez pas, comme ça, ressortir mes phrases de mon livre. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle, donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut. Vous savez, vous connaissez le mot de Richelieu, donnez-moi trois phrases de n'importe qui et je vous le fais condamner. C'est exactement ce que vous venez de faire, monsieur Boulot.
Merci à vous.
Non, je trouve simplement qu'il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette.
Je vous réinviterai bien volontiers.
Non, mais c'était le moment ou jamais.
Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme.
Pas vraiment.
Il me semble que si.
Il me semble que non.
Un agacement palpable à l'antenne, mais sans commune mesure avec ce qui se passe après le JT. Il vous insulte carrément dans les coulisses.
Enfin, mais c'est juste, c'est trois secondes après. Hein. L'insulte, c'est trois secondes après. C'est-à-dire qu'il ferme la porte du studio et je l'entends grommeler. Et devant 10 personnes qui étaient là, il dit voilà, connard. Et en fait, moi, l'analyse que... Pas à peine de faire du divan et de la psychanalyse. Je pense que l'injure, il se l'adressait à lui-même.
Il était mécontent de sa prestation.
Mais évidemment, il est extrêmement intelligent, il connaît le jeu politique, il s'est dit zut. Enfin, il n'a pas dit zut, d'ailleurs, il a dit autre chose. Je me suis loupé sur ce coup-là, je me suis loupé. Il y a une contrainte, je l'ai prise un peu à la légère et je me refais la cerise une autre fois, puis voilà.
On va terminer avec une interview nettement plus douce, qui va vous plaire.
Et oui, les indices sont vestimentaires, pantalon vert et chaussettes jaunes poussin. Ça vous renvoie à quel invité ?
Pantalon vert ? Mais je ne me souviens plus qui ?
C'était la tenue du génial Jean Rochefort.
Ah oui, mais vous avez oublié les baskets, il était en basket aussi. Ah non, pardon. Vous oubliez l'essentiel. Oh là 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 là.
Alors vous l'avez reçu au 20h.
Ah ouais.
Il y a 10 ans.
Bonsoir Jean Rochefort.
Bonsoir.
Vous êtes connu pour vos pantalons aussi, qui sont extraordinaires, vos baskets fluo. Alors aujourd'hui, on ne voit pas forcément bien, votre pantalon est vert, vos baskets sont blanches. Et les chaussettes sont jaunes poussin.
Ah, vous avez vu mes chaussettes.
Ah, j'ai tout vu. L'excentricité. Et se moquer de soi-même, c'est un peu vous aussi.
Oui, oui, se moquer de soi-même et puis lutter contre l'érosion, ce qui est important.
Et vous, elle ne vous menace pas ?
Mais si, bien sûr.
Jean Rochefort, c'est un de vos meilleurs souvenirs
Ouais, mais c'est un souvenir égoïste, un souvenir d'amour fou de son cinéma. Quand je suis parti aux États-Unis en famille comme correspondant pendant 10 ans, ce que j'ai fait avant de partir, je suis allé dans un supermarché et j'ai acheté le double DVD de « Nous irons tous au paradis », un éléphant, ça trompe énormément. Je voulais que mes enfants soient perméable à ça, à cet esprit français.
Partir avec un peu de Rochefort, de l'autre côté de l'Atlantique.
Et donc, je suis parti avec, dans ma valise, Rochefort.
Gilles Boulot, vous êtes naturellement incollab sur l'actualité générale, mais le serez-vous aussi sur l'info-média ?
Je sais pas. Vous allez encore me poser des questions.
Ah non, alors nous, on fait plus rien.
Oh, si, si,
c'est
si.
Eva Kruiver qui arrive maintenant alors, pour ce quiz de l'info-télé.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
Ici aussi, on a un journal Gilles Boulot, le journal de l'info télé en partenariat avec Télé Loisirs. Bonjour Eva Kruiver.
Bonjour Gilles. Bonjour. On va voir ce que vous avez dans le ciboulot.
Ah ça, vous n'avez jamais fait encore celui-ci. On a eu du boulot, du jeu de mots sur le boulot. Il aime le boulot,
si, si,
tout ça.
Ciboulot,
vous l'avez eu?
J'avais un prof de français, j'avais eu 8,5. Il m'a dit, Monsieur Boulot, c'est pas du boulot?
Bon alors, bah oui.
Depuis, il est devenu humoriste naturellement.
Mais je vous écoute attentivement. Allez-y.
La grande différence, vous n'allez pas faire que l'écouter, vous allez participer aussi. Hein. La grande différence entre notre journal et le vôtre, c'est que nous, on donne aussi parfois des intox, des fake news. À vous d'essayer de les repérer. Vous nous dites simplement, Gilles Boulot, si vous y croyez ou pas.
Le trésor de TF1 qui ne reconnaît pas Michel Jonas, vous y croyez ou pas?
Ah oh bah oui, c'est arrivé jeudi.
C'est là,
incroyable.
C'est vrai, c'est arrivé jeudi dans son journal de la mi-journée. Marie-Sophie Lacaro a lancé un reportage sur la pénurie des carburants. Une journaliste interviewe alors des conducteurs dans le Val-de-Marne, dans une station-service, et parmi eux, un certain Michel Jonas. Sauf qu'à ce moment-là, il n'est indiqué nulle part qu'il s'agit du célèbre chanteur. Le commentaire se contente de parler d'un monsieur.
Encore faut-il que ces carburants Excellium soient eux aussi disponibles. Ce monsieur est venu pour du sans-plomb 98.
J'ai appelé avant de venir, figurez-vous, et il m'a dit oui, le monsieur.
Là, il n'y en a plus.
Comment ça, il n'y en a plus? Mais il m'a dit oui.
Gilles Boulot, comment est-il possible que personne n'ait reconnu Michel Jonas au trésor de TF1 jeudi? Vous avez une explication à ce qui s'était passé ou pas?
Oui, mais on l'a reconnu. Moi, j'ai regardé le trésor. Je dis, nom de Dieu, c'est la voix, c'est le vieux Michel Jonas qui fait le plein de... dans sa voiture. Et donc,
pourquoi on l'appelle ce monsieur alors à l'antenne?
Mais parce que, en fait, tout le monde l'a reconnu. La jeune journaliste qui est excellente, qui a fait le sujet, elle était dans le rush et elle fait l'interview. Et lui ne se présente pas en disant je suis Michel Jonas. Donc elle fait le truc, elle monte vite, fait son sujet. Le sujet arrive et Romain Husneau, l'excellent rédacteur en chef du 13h, dit à l'oreillette à Marie-Sophie, qui n'avait pas eu le temps de voir le sujet, qui venait d'arriver, Marie-Sophie, c'est incroyable, tu vas voir, le dernier gars qui parle, c'est Michel Jonas.
Pourquoi elle le dit pas après?
Et parce qu'il fait des blagues tout le temps. Il lui dit, tu vois, le pape en doudoune blanche, c'est une vraie doudoune, c'est pas une vraie doudoune. Ou
c'est la d'Angleterre.
Il y a Nicolas Sarkozy qui fait du ski nautique. Donc c'est un jeu, ils sont très complices.
Donc elle s'est dit, c'est une vanne de plus.
C'est une vanne de plus. Parce qu'il lui dit, bah, tu fais ce qu'on appelle un pied, c'est-à-dire après le sujet, tu dis, ah ben tiens, c'est drôle, c'est Michel Jonas. Mais un peu tétanisé par les blagounettes de. Elle a vu, elle s'est dit, oh, c'est Michel Jonas, puis elle est repartie.
Mais pourquoi ce monsieur, pourquoi la journaliste dit-elle ce monsieur? Elle n'avait pas reconnu Michel Jonas.
Mais je pense que dans le feu de l'action, cette jeune journaliste qui est excellente, elle n'a pas immédiatement reconnu, voilà. Totalement hors contexte. Voilà.
Donc, dans la station-service, il a fallu vérifier.
Dans une station-service à Saint-Mandé,
près de chez lui,
elle l'a pas reconnu tout de suite. Voilà.
Peut-être une question de génération aussi, non?
Oui, peut-être une question de... Mais c'est tout à fait possible. Il y a des chocs de génération. Et Michel Jonas, qui est de ma génération, que j'ai adulé, j'imagine qu'une jeune journaliste de 23 ans sait qui c'est. Ou elle sait quel est son visage à 40 ans. Mais il a plus 40 ans, Michel Jonas. Donc peut-être qu'elle ne le reconnaît pas en train de faire le plein de sa voiture. C'est le temps qui passe, qui fait son œuvre.
Allez, autre info télé à vérifier.
Nolwenn Leroy va bientôt reprendre le rôle d'Imogène, cette célèbre détective bretonne incarnée pendant des années sur TF1 par Dominique Lavanant. Gilles Boulot, vous y croyez ou pas?
Moi, je suis un mec crédule, oui.
Vous dites oui?
Non.
Non, ben non, vous n'êtes pas très...
Désolé,
vous pouvez dire oui pour me faire plaisir.
Ah, bien sûr, on va donner des fausses infos pour faire plaisir.
Donc, c'est...
Non, c'est faux.
D'accord.
Mais elle va bien jouer dans une série au parfum de Bretagne, Brocéliande, un registre du coup plus fantastique. Et oui, Brocéliande, c'est une forêt enchantée, marquée de légendes arthuriennes. Nolwenn Leroy, qui s'était déjà essayé à la comédie il y a 2 ans en Capitaine Marlowe, hérite cette fois du rôle principal dans cette série de 6 fois 52 minutes. Elle jouera Fanny Le Goff, une biologiste qui va enquêter sur la disparition de son amie d'enfance 15 ans plus tôt en Bretagne. À ses côtés, on retrouvera également Marianne Chazelle, Mehdi Sadoun, Catherine Marshall ou encore notre monsieur Histoire sur RTL, Laurent Deutsch.
En parlant d'enquête policière, on a un petit cadeau pour vous, Gilles Boulot, et sans doute votre tout premier reportage. C'était en juillet 1986 pour le 20h de Claude Sérillon.
Ouais.
Et il était justement question d'une enquête de police.
Dans le département des Yvelines, à Saint-Nom-la-Bretèche, un industriel libyen de 54 ans a été assassiné hier soir par un groupe d'hommes masqués. La police s'efforce de déterminer s'il s'agit d'un commando politique ou d'un crime crapuleux. Commentaire Gilles Boulot.
Villa Cossu, dans une banlieue calme, à 10 km de Paris, Saint-Nom-la-Bretèche.
23h50, un groupe de 5 hommes portant armes et cagoules s'introduit dans la villa de Mohamed Bouzou. Mohamed Bouzou est abattu d'une seule balle de 7,65 dans le dos.
Vous étiez tout jeune là, hein, vous aviez 24 ans, vous sortiez d'école de journalisme.
Ah, j'étais stagiaire à Antenne 2.
Oui, l'ancêtre de France 2.
Antenne de France 2, j'étais aux infogénés, hein, les gens qui arrivent, on les met aux infogénés, c'est-à-dire les faits divers. Et là, ben voilà, donc cet homme se fait abattre, et donc je fais le sujet, il y a un photographe qui arrive. Et il me dit, est-ce que vous pourriez vous repencher sur la trace de craie sur laquelle... etc. Donc je me penche anonymement. Le lendemain, j'achète le journal, je faisais la une de l'Humanité.
Non.
À la une de l'Huma du 6 juillet 86. Voilà, il n'y avait pas Georges Marchais, il y avait Gilles Boulot de dos.
Pendant longtemps, vous avez refusé d'apparaître dans vos reportages, Gilles Boulot. Hein. On peut dire que contrairement à d'autres, vous n'avez jamais couru après l'antenne.
Ah, pas du tout, ah, pas du tout, du tout. C'est pas du tout pour ça que j'ai fait ce métier. J'ai fait ce métier pour raconter des histoires vraies, faire du reportage court, long, du documentaire et parcourir le monde.
Et alors, les premières fois que vous vous retrouvez devant une caméra, c'est compliqué?
Ah non, mais c'était dramatique. Dans mon souvenir, il y avait la grève contre la loi Devaquet et la gare de Lyon était paralysée, ça arrive, hein. Et c'était Bruno Mazur, me semble-t-il, qui présentait le journal. Et il fallait faire un direct, ce qu'on appelle roule-roule pas. Le train de 14h08 ne roule pas, etc., etc. Et j'avais acheté au puce un manteau gris informe deux jours avant. Et le premier direct, il ne faut surtout pas le sortir de l'INA. C'est dramatique.
Vous êtes dramatiquement habillé.
Ah ouais, mais c'est les déchiens. Enfin,
vous êtes dramatiquement...
C'est pas possible.
Vous êtes dramatiquement crispé aussi.
En fait, j'avais l'impression... Je crois qu'à ce moment-là, j'aurais préféré mourir. Un petit coup de ciguë, paf, terminé. J'étais... En haut d'une falaise à Étretat, allez, vas-y, vieux. Oh, c'est vertigineux.
Mais pourtant, ça ne vous a pas détourné. Ça ne vous a pas dégoûté à tout jamais.
Ah, j'en ai fait très peu. Après, j'en ai fait très peu quand même pendant beaucoup d'années. Après, j'en ai refait pour me guérir de ça. C'est aussi pour ça que je fais ce boulot.
Oui, une bonne thérapie tous les soirs à 20h devant 5,5 millions de personnes.
Mais je ne suis pas allongé, je suis assis. Hein.
C'est allongé
d'habitude. Hein.
Allez, dernière info télé ou un tox.
Julien Courbet pris d'une crise d'éternuement en direct sur RTL et sur M6. Vous y croyez ou pas?
Alors, Julien, j'en sais rien, mais moi, ça m'était arrivé pendant le journal. Hein. Donc, ça lui est arrivé aussi à lui?
Est-ce que tu crois vrai ou faux?
Oui, moi, ça m'est arrivé.
Oui, bravo. Ça s'est passé mercredi dans son émission « Ça peut vous arriver », diffusée en simultané à la radio et à la télé. C'est dire si ces éternuements, vous allez l'entendre, très légers, ne sont pas passés inaperçus.
Avec un super chauffeur, c'était super. Atina, qui a conduit. Elle conduit bien?
Très bien.
Oh la vache.
Excusez-moi.
Ah, vous souhaitez pas trop, vous souhaitez.
Alors, je vous explique, je suis allergique à la clim. J'arrive à me contenir d'habitude, mais ça n'a rien à voir avec vous, madame, parce que ça ne m'arrive jamais.
C'est bizarre.
Elle est en train de se dire, merde, t'as vu ce que j'ai fait? Je suis allergique à la clim, en fait. Voilà, il y a des fois ça passe, des fois ça ne passe pas.
Ça vous est déjà arrivé une crise d'éternuement aussi?
Non, mais
ça, à l'antenne?
Comme lui, j'ai des crises d'allergie. Et donc, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, j'étais en pleurs pendant le journal. La nouvelle était très gaie, il n'y a aucun problème.
Et c'est l'allergie à quoi? La clim aussi?
Non, mais j'ai des crises d'allergie, ça peut être aux graminées, etc. Ça vous prend comme ça. J'ai une crise d'éternuement à la frappe du prompteur. Là, il y a un mois, j'ai éternué 34 fois. Et vous dites, si ça m'arrive dans 40 minutes, je suis très très mal.
Ouais. Donc, vous êtes là, les gens, quand vous êtes en pleurs à cause de votre allergie à l'antenne, ils doivent se dire, il ne va pas bien. Ce
ah non, mais là, j'étais en pleurs. Et les gens, quand même, ça ne va pas, t'as un deuil dans ta famille parce que tu lançais un sujet sur la dent. Non, j'étais, c'est irrépressible. Non, mais c'est là, ça, c'est le fait d'être à faune, le fait, voilà, c'est comme les danseurs qui ont un lumbago, quoi. C'est un peu ce qu'on craint le plus. Hein.
Il fait quelle température sur le plateau du 20h?
Je sais pas.
Vous avez la clim à fond ou pas?
Ah ouais, j'aime bien qu'il... Ouais, parce qu'en fait, la température à la fin du journal, c'est pas celle du début. Vous avez un mur d'images, des spots partout. Donc s'il fait 18 au début, c'est plutôt les tropiques à la fin. Donc il vaut mieux commencer plutôt par le pôle Nord pour pas finir en Mauritanie, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Eva Kruver.
Merci à vous, à la semaine prochaine. Merci
on va beaucoup. Maintenant passer à la question fromage ou dessert.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Fromage ou dessert?
Vous êtes très svelte, Gilles Boulot. Est-ce à dire que vous avez un appétit d'oiseau?
Ah, pas du tout. Les apparences.
Beaucoup de fourchettes.
Vous mangez?
Ah non, j'adore manger. Ah
oui. Mais alors avec ce 20h, du coup, vous devez dîner très tard.
Ben oui, dans les restaurants, les restaurateurs mangent avant le service. Moi, je mange après le service.
C'est-à-dire vers quelle heure?
Quand je rentre chez moi, 21h45, 22h, oui, c'est très tard.
Alors un dîner assez tard, vous compensez peut-être avec un banquet le midi dans la cantine de TF1 ou oh c'est plutôt frugal?
C'est frugal et c'est cantine, ouais, souvent. Ou quelquefois même le plat sur mon ordi.
Bon bah chez nous c'est pareil, c'est très light. Hein.
C'est vrai?
Vous devez choisir entre fromage et dessert.
Bon, alors voici ces deux propositions matérialisées, vous voyez, chaque enveloppe contient une question. Laquelle prenez-vous? Fromage ou dessert?
Dessert.
Allez, c'est pas mal.
J'ouvre.
Et cette question est...
Vous êtes-vous fixé une date de départ du 20h de TF1?
Vous nous répondez dans 2 minutes. RTL, il est midi.
Et nous sommes toujours avec Gilles Boulot pour refaire la télé.
Le suspense est à son paroxysme, Gilles Boulot. Vous allez devoir maintenant répondre à la question que vous avez tirée au sort juste avant les infos. Cette question était...
Vous êtes-vous fixé une date de départ du 20h de TF1? Non, je ne suis pas fixé de départ. Je me suis promis deux choses en commençant ce taf. De ne pas changer. J'ai suivi les conseils de mon ami Jean-Pierre Pernaut, qui n'a jamais pris le melon, qui n'a jamais pris la grosse tête. Il m'a dit « Reste ce que tu es ». Donc j'espère ne pas avoir changé. Et deuxièmement, de partir dans la joie, la bonne humeur, sans regret, sans aigreur. Et donc, ça arrivera quand ça arrivera.
Le jour où il y aura moins de plaisir, vous n'hésiterez pas à raccrocher les gants.
Oui, je préfère partir avant de faire la saison de Ligue 1 de trop. C'est-à-dire que si je ne peux plus marquer de but et que je recule de avant-centre à milieu de terrain, à libéraux, à gardien et à coupeur de citron, je préfère...
Mais on est rarement le meilleur juge pour soi-même.
Mais c'est ça qui est très dur. C'est ça, j'en ai parlé avec pas mal de copains présentateurs, c'est dur. Quand tout va bien, vous dites encore un peu, puis quand ça va pas, vous dites je vais remonter la pente. Non, je suis assez lucide.
Le moment n'est pas venu, vous serez donc à la présentation toujours du 20h de TF1 en septembre prochain.
Si Dieu le veut, si mes patrons le veulent...
Pour l'instant,
si les téléspectateurs le veulent, oui, mais c'est un monde qui va très vite. Vous n'êtes là que par l'assentiment des téléspectateurs. Et donc, c'est tellement génial de faire ça depuis un peu plus de 10 ans.
Fera 11 ans cette année.
Oui, ça fera 11 ans en juin, c'est formidable. J'étais un peu flippé au début, pendant un an ou deux. Vous êtes un peu paranoïaque, vous vous dites « Mais si mes patrons se sont trompés, en fait, je ne suis pas du tout la bonne personne. Arrêtez tout !» C'est une erreur de casting monumentale. Puis au bout d'un moment, vous rassurez vous-même.
Ah, vous avez le syndrome de l'usurpateur presque.
Oui, au début, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en moi qui fait qu'ils m'ont choisi? J'ai pas forcément l'âge requis, j'ai quitté la France il y a très longtemps, est-ce qu'ils ont pas fait une énorme boulette avec boulot? Voilà. Et donc, pendant un an ou deux, puis il faut faire vos preuves, et puis c'est très compliqué, c'est une gymnastique très compliquée le 20h.
Vous avez mis du temps à prendre du plaisir?
J'ai mis du temps à ce que le plaisir prenne le pas sur le stress et la difficulté. Je vais vous dire un secret, c'est un job difficile qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de tension, il faut de la diplomatie, il faut de la précision, il faut avoir la peau en téflon, et en même temps, il ne faut pas être imperméable aux émotions des autres. Donc c'est un job, tous les jobs sont difficiles, et c'est un job difficile qui ne ressemble pas du tout à ce que les gens croient. C'est-à-dire que je ne suis pas aux avant-premières à l'opéra, je n'arrive pas à 19h, et voilà, c'est un job d'artisan que j'adore, je suis fondamentalement un artisan, je n'ai pas changé, j'étais reporter pendant 25 ans, et je continue d'une certaine manière à l'être, et le jour où ça s'arrêtera, je dirais, c'était formidable.
Alors on le disait, vous êtes devenu titulaire il y a 11 ans, après la démission de Laurence Ferrari, et tout a commencé par une mauvaise blague de la direction de l'info, je crois.
Oui, mon patron de l'époque, qui était Nonce Paolini, ma patronne qui était Catherine Nel, me convoque. Je remplaçais temporairement Laurence. Je descends en pleine conférence de rédaction parce qu'ils m'ont appelé. J'arrive dans leur bureau et Nonce, que j'aimais bien, dont je connaissais l'esprit malicieux, me dit « Écoute Gilles, on a une nouvelle ». Écoute, voilà, tu sais qu'on devait réfléchir beaucoup, donc c'est pas toi. Mais non, je déconne.
Oh, la bonne blague.
Ce sera toi. Voilà, j'appelle mon cardiologue.
C'est ça, le rythme cardiaque. Mais t'es dû augmenter subitement.
Et en fait, dans cette microseconde, comme je suis quelqu'un d'assez fataliste, je suis pas du genre à mettre le pied dans la porte, je dis bon, ben voilà, il y a eu une compète qui était ouverte. Ils ont eu une longue semaine, en fait, pour arbitrer entre le départ de Laurence et la nomination d'un remplaçant ou d'une remplaçante. Donc, je suis dit, comme on dit en anglais, so be it, quoi, c'est comme ça. Donc après, il m'a dit, écoute, on n'a pas beaucoup de temps parce que tu fais le 20h ce soir, mais voilà, on a beaucoup réfléchi, on a ouvert les portes à une très large réflexion et on est sûr que tu feras le job.
Contrairement à vos prédécesseurs, vous avez beau présenter le 20h, vous êtes l'antistar par excellence, Gilles Boulot. Il y a eu un effet de rupture, les temps ont changé.
Les temps ont changé et puis il y a un terrain plus ou moins propice, moi je n'ai pas ça en moi. Je ne le souhaite pas, je n'ai jamais désiré ardemment, j'ai pas besoin de cette béquille narcissique, ça me... Voilà.
Ça vous encombrerait même plutôt ?
J'en sais rien, j'en ai discuté avec des stars, j'ai eu des très longues conversations avec Johnny par exemple. Je suis pas de Johnny, je n'y aspire pas, j'ai pas son génie, j'ai pas son talent, on fait pas le même métier et la star attitude serait un sous-produit de mon job.
Par exemple, vous avez toujours refusé de médiatiser votre famille. Bah, toujours refusé de vous pipoliser.
Ah bah, oui, parce que mes enfants n'ont pas demandé. D'abord, ils ne regardent pas le 20h, donc ils savent que je fais le journal, mais lointainement. Et puis, ils n'ont pas demandé d'être dans la lumière. Mes proches non plus, voilà, ma femme non plus. Donc voilà, ça ne... pour moi, c'est hors sujet. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand vous mettez ça de côté... les gens vous fatiguent pas avec ça et vous restez libre. Je pense que ça vous emprisonne un peu le fait d'être une star, etc.
Quand il n'est pas dans la télé, que regarde Gilles Boulot à la télévision? On va voir ça et puis il y aura la question qui tue Gilles Boulot.
Aïe.
C'est la question foutu pour foutu.
Aïe, aïe, aïe.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
Le plateau télé de l'invité.
Déjà, première question, est-ce que dans le plateau télé de Gilles Boulot, on trouve parfois du Gilles Boulot? Je veux dire par là, est-ce que vous regardez parfois en replay pour faire une analyse critique de votre journal?
Au début, je l'ai beaucoup fait. Hein. Je regardais, je m'infligeais ma tronche intégralement le soir. Parce que je voulais corriger, comme quelqu'un fait du trampoline ou de la gym en disant « Attention, le triple axel n'est pas bon ». J'ai fait ça pendant quelques mois. Après, je me suis un peu lassé de moi-même hein, quand même. Hein. J'en ai eu un peu marre. Non, j'ai fini, je ne regarde plus.
Gilles Boulot, à la télé, il n'y a pas que de l'info. Il y a aussi d'autres programmes. On a épluché les programmes télé des prochains jours.
Alors, on vous fait des propositions et vous nous dites ce qui vous tente le plus. Par exemple, jeudi prochain, ce sera la demi-finale du jeu Pékin Express sur M6. Est-ce que ça vous tente? Ou alors, vous préférez regarder Top Dog? Eh oui, un concours d'agilité canine sur Gulli.
Alors, le concours canin... j'ai fait en Angleterre des sujets qui m'ont fait beaucoup rire sur des concours canins.
Ouais.
Je vais peut-être plutôt Pékin Express. Hein.
Vous feriez un excellent candidat pour Pékin Express, Gilles Boulot. Parce
c'est
que
vrai.
Vous marchez, courir, ça vous fait pas peur.
Ouais.
Vous faites toujours vos 70 km de course par semaine?
Un peu plus, un peu moins. Plus, quelquefois, 80, 90, s'il y a un marathon en perspective, oui, bien sûr.
Vous courez tous les matins avant d'arriver à TF1?
Non, je cours pas le matin, j'ai pas le temps. Je cours quelquefois le midi et le vendredi, le samedi, le dimanche.
Dès que vous trouvez un petit peu de temps?
Dès que je trouve 45 minutes, hop, 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 j'ai toujours mes baskets dans mon coin et j'y vais.
Il y a un autre fondu de course qui avait témoigné de votre passion dans une émission de Canal+, c'est Samuel Etienne.
Il court, Gilles, et puis c'est un vrai coureur. Hein. On se croise parfois au bois. Quand je dis qu'on se croise au bois, on se croise au bois en courant, bien sûr. Mais c'est un vrai coureur. Parce que dans nos métiers, il y a des gens qui projettent une image parfois de sportif, qui disent « je cours », etc. Puis il y a les vrais coureurs. Et Gilles Boulot, moi j'ai couru avec lui, c'est un vrai coureur.
Gilles Boulot est un coureur, j'ai déjà vu au bois. Vous savez que cette phrase sortie de son contexte pourrait vous valoir bien des problèmes, Gilles Boulot.
Mais oui, parce que quand j'ai fait les sujets sur Strauss-Kahn, on prononçait les mêmes mots. Donc je suis un petit peu inquiet du double sens.
Après quoi courez-vous, Gilles Boulot? Votre bien-être?
Comme diraient les bouddhistes, le but c'est le chemin. Je ne sais pas après quoi je cours. Je cours après le bien-être, après l'hygiène de vie, après l'amitié, la camaraderie, les voyages, le fait de sentir bien dans ses pompes.
Si vous ne pouvez pas courir pendant une semaine, il se passe quoi?
Ah, je suis très mal, j'ai eu une petite galère, une petite blessure il y a quelques mois, j'ai pas pu courir pendant plusieurs semaines, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps parce que j'ai commencé la course à pied tout jeune, mais j'étais déprimé, ronchon, fallait pas m'inviter à ce moment-là. Hein.
Ça vous aide aussi, j'imagine, à travailler votre résistance au stress auquel vous êtes fortement soumis hein, pour la préparation de ce 20h. Ça marche visiblement, hein. Tous vos collaborateurs le disent, Gilles Boulot ne se met jamais en colère, c'est vrai?
Non, ils sont sympas, mais ça m'arrive quelquefois. Ça m'arrive de monter un peu dans les tours, mais là aussi, j'ai beaucoup changé. J'étais pas sanguin, mais je montais plus dans les tours au début. Et puis en fait, ça sert à rien, c'est un constat de faiblesse et d'impuissance, ça ne résout rien. Il faut que les choses se fassent dans l'harmonie, ça n'empêche pas les conflits, les désaccords. Ça sert à rien de gueuler, donc je ne le fais pas.
Allez, on retourne à votre plateau télé.
Vendredi soir, on vous propose le lancement de la 5e saison de Mask Singer sur TF1. Ou alors un prime time du jeu musical de Nagui. N'oubliez pas les paroles sur France 2.
Ah non, Mask Singer, j'aime bien.
Ah.
D'abord parce que derrière le caribou masqué, c'est moi. Ah zut! Ah la vache! J'ai dit que c'était moi le caribou masqué.
Alors qu'en fait, vous êtes la chenille.
Ah, ils vont jeter à la benne toute la saison.
Je peux la mettre à la poubelle.
J'ai dit une boulette.
Est-ce que vous auriez le droit de participer à Mask Singer
le droit.
En tant que figure de l'info?
Alors, Jade, vous ne posez pas la bonne question. Si votre question est dit, Gilles, est-ce que vous avez le talent pour le faire? La réponse est non.
Le talent, vous savez.
Gilles, est-ce que vous allez.
Pour chanter en cupcake, le talent, ça va.
Est-ce que vous allez couler l'émission? Oui. Donc,
vous ne chantez pas.
Oh, bah oui, si j'allais voir mon patron.
Non, mais la question, sérieusement, c'est qu'en tant que figure de l'info de TF1, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi.
Non, mais ça, c'est pas. C'est... Ah non, si j'allais voir mon patron Thierry Tulli en disant écoute, il y a un truc drôle, j'étais sollicité pour faire ça, c'est un total contre-pied, mais pourquoi? Enfin,
Oui, sauf si c'est diffusé par exemple un soir où il y a une actualité très grave, on vous a vu.
Ouais,
évidemment.
C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est drôle que vous posiez la question. J'ai jamais pensé, mais j'y vois pas d'obstacle absolu système.
Que vous voudriez alors comme costume du coup? On vous propose quoi là, cette année? Je crois qu'il y a le lama notamment.
Attention, parce que lama. Quand lama fâché, lama craché. Hein. Faites gaffe quand même, hein, Jeanne. Hein.
L'autre choix, c'était n'oubliez pas les paroles. Alors vous, une fois, désolé, mais lors d'un duplex, vous aviez oublié les paroles d'un très grand tube que vous aviez voulu citer, Gilles Boulot. Téléphone, ça c'est vraiment toi. Bah ce jour-là, c'était pas vraiment ça.
Oh la vache.
Voici d'abord les vraies paroles de ce tube.
Ce qui est très intéressant dans ce concert, qui est assez disparate, en fait, il y a des disques. Tout à l'heure, nous avons entendu Téléphone, le groupe Téléphone, qui chantait « Quelque chose en toi cloche, quelque chose en toi cloche ». Vous connaissez cette célèbre chanson?
C'est quoi ce bah, duplex vous, hein. Moisi? C'est qui?
Vous aviez fait un mix entre Téléphone mais et Trois Cloches de Mireille Mathieu.
Mais c'est quoi? Sonne.
Et pourtant, le rock, c'est votre truc.
Ah, mais j'adore, mais j'adore.
Vous avez même eu un groupe lorsque vous étiez adolescent?
Ouais, j'ai eu un groupe, ouais, bien sûr.
Le j'adore. Nom magnifique.
Ah, il y en a eu deux, parce que le monde s'arrachait à notre présence. Alors, attendez, le premier s'appelait Supermatozoïde, et devant l'absence totale de succès injuste, après c'était Électrogène. Et là, on a eu une longue carrière.
Ah, le groupe Électrogène.
Le groupe Électrogène, on trouvait ça malin.
Bien trouvé.
Ouais. Et là, on s'attendait à ce que les filles arrivent. Bon, on était un peu déçus par le succès critique.
Ils se sont pas jetés sur vous.
Voilà, on fait ça sur une péniche.
Mais vous étiez quoi, batteur, chanteur?
Moi, j'étais batteur. Non, pas chanteur. J'étais batteur, j'adorais... Kiss Moon, Charlie Watts.
Vous en faites encore aujourd'hui de la batterie, parce qu'on peut peut-être vous envoyer Philippe Etchebest, vous savez.
Ah oui. Non, j'ai un neveu qui a une batterie, qui est un très bon musicien. J'ai un peu tapé chez lui il y a quelques mois. J'en fais plus, mais j'ai adoré. Puis je vis avec de la musique tout le temps.
Et alors, vous jouiez quoi avec votre groupe Électrogène? Plutôt des reprises ou alors des compositions?
Dans les deux cas, c'était tragique. Hein, non, parce qu'il faut prévenir vos auditeurs.
Il n'y a pas d'enregistrement qui existe de ça?
Si.
Parfait.
Est-ce que je peux lancer un appel?
Bah nous aussi, on le lance.
C'est pas l'abbé Pierre en 54. Voilà, chers auditeurs, si quelqu'un parmi vous a assisté à un concert sur une grande péniche au Mureau en juin 79, 8 jours avant le bac, c'est vous dire si on était motivé pour préparer le bac, des cassettes ont été enregistrées sur ce magnifique concert. Détruisez-la.
Non,
détruisez
vous nous l'envoyez,
la
au contraire,
vous détruisez la cassette.
C'était pas si mauvais.
C'était pas très bon, j'étais pas un très bon musicien, mais il y a un plaisir de jouer ensemble qui est disjoint de la qualité musicale. Mais j'ai adoré cette période-là. On ne vivait que pour ça, on allait voir les concerts tout le temps, on essayait de progresser. On partait de très très loin.
Est-ce que ça payait bien, ces concerts?
Ah non, on avait droit au buffet gratuit et c'était 50 francs par musicos, on était 6.
À 7 euros à peu près quoi.
On était à 6, on n'avait même pas le talent d'un musicien normal, hein. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré, qu'est-ce que c'était bien.
Nous aussi on a un moment très rock'n'roll dans cette émission Gilles Boulot, ça s'appelle la question.
Foutu pour foutu.
Vous allez devoir faire un choix cornélien, Gilles Boulot, foutu pour foutu. Vous préférez qu'on réécoute un lapsus que vous aviez fait aux 20h, ou alors votre prestation comme joker dans Qui veut gagner des millions?
Oh là. En fait, vous m'offrez le choix entre la lose et la lose.
C'est ça.
Oui. C'est
parce que nous, on veut gagner.
Je vais
revenir dans votre émission.
C'est foutu pour foutu.
Vous n'allez pas me refaire le lapsus de Jean-Louis Aubert, toi, c'est vraiment
non,
toi.
Non.
Ah, il y a quelques beaux lapsus. J'aime bien Sigmund Freud. Un petit coup de lapsus. Allez-y.
Bon, déjà, comparé à d'autres, vous en faites assez peu, Gilles Boulot, mais pas de chance pour vous. Nous étions devant votre journal le 9 novembre 2021.
Les mesures annoncées ce soir concernent notamment le renforcement des contrôles de passe sanitaire et le port du voile. Et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi.
Rien de bien grave dans le fond, mais je me souviens de toutes les réactions après sur Internet, le nombre d'articles que ça avait pu générer. Ça aussi, quand on présente le 20h, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi.
Et c'est drôle parce que ça dit plein de choses. On peut en rigoler, un lapsus, on en fait tous. Et toute la journée, on était sur le voile, etc. Et donc, ma langue a fourché. Mais ce qu'il y a, ce qui est un peu cruel, mais c'est la règle du job, c'est qu'en fait, les gens surinterprètent tout. Un haussement de sourcils. Ah, il a dit masque ou il a dit voile à la place de masque. C'est peut-être qu'il est pour le port du voile en public, ou qu'il est contre, ou qu'il vote pour X ou pour Y.
C'est surinterprété.
C'est pour ça que je ne m'expose pas par ailleurs. C'est-à-dire que si je dis que j'aime plutôt le PSG, quand même, ah ouais, il n'aime pas les Marseillais, lui. Hein. Mais non, pas du tout.
Mais au moment où vous faites ce lapsus, vous, ça vous énerve?
Bah oui, parce que
vous dites tout de suite, oula, ça va générer un nombre incroyable.
Ah ouais, je me suis dit, mais comment t'as pu buter là-dessus? Parce que certains pourraient considérer que ça fait sens. Si je dis Jean-Christophe Mbappé, les gens vont dire, Boulot, là, il sait bien que son prénom, c'est pas Jean-Christophe, c'est Kylian Mbappé, il le sait. Donc, ça va aller. Mais il y a des lapsus plus horribles que ça, il y en a un qui est affreux. J'étais à LCI, je présentais les journaux et on faisait une spéciale sur le premier anniversaire de la mort de François Mitterrand. Et donc, tous les membres du Parti Socialiste étaient à Jarnac, en Charente, sur la tombe, etc. Et je fais la spéciale et je dis, et eh oui, les visages recueillis de Daniel Mitterrand auprès de la tombe de Charles Pasqua, mort il y a un an. Et on aperçoit Michel Charras éploré, pleurant son vieil ami et complice Charles Pasqua. Ça dure un quart d'heure. Et c'est pas un lapsus, c'est un truc de dingue.
Donc on a sorti plusieurs fois pendant un quart d'heure.
Mais
personne ne vous dit à l'oreillette.
Et au bout d'un quart d'heure, ma chef d'édition me dit, Gilles, je crois qu'en fait, c'est affreux, mais depuis un quart d'heure, tu parles de Charles Pasqua qui se porte comme un chat. Je crois qu'il s'agit de François Mitterrand. Je dis, ben, je sais bien qu'il s'agit de Charles Pasqua. Non, non, pas de Charles Pasqua.
Oui, il y a un blocage là.
Ah non, mais il y a un truc dingue. Je ne souhaitais pas la mort de Charles Pasqua, mais ça, il est plus dingue que dingue. Parce que ça dure la moitié de la spéciale.
Allez, après les souvenirs qui piquent, voici vos meilleurs souvenirs de téléspectateurs cette fois, Gilles Boulot. On joue tous ensemble au blind test des génériques télé.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard. On refait la télé sur RTL. Jukebox.
Et aujourd'hui, on joue avec vos souvenirs télé, Gilles Boulot. Vous allez affronter Jade, la championne du blind test.
Ouais, vous pouvez trembler. Vous pouvez trembler.
Jade la tornade.
Jade la tornade.
Jade la tornade.
Bien sûr, du blind test. Alors, le point à celui qui reconnaît le plus vite le générique d'émission ou de série, ce sont des programmes que vous avez aimés. Et on commence avec du très très facile.
Zorro,
non. Je sais pas, c'est très prudent de l'avoir laissé, Jade, parce qu'il n'est pas dit que vous en aurez d'autres.
Ça me rajeunit de 6 mois. Oh, Zorro.
Série de votre enfant, Gilles Boulot.
Ah ouais.
Même si vous l'avez découverte assez tardivement, parce que la télé, vous ne l'avez pas vue très jeune, en fait.
En fait, j'avais pas de télé. J'avais pas de télé. Et un jour, j'étais en primaire, mais j'étais grand, j'avais avoir 7-8 ans. Et il y a un copain avec une petite branche d'arbre en récré qui me fait sur le ventre, sac, 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 fuis Zorro. Je lui dis, pardon, c'est qui, toi? Fuis Zorro.
Et vous connaissez pas Zorro.
Et Garcia.
Vous connaissiez.
Je dis, mais c'est qui Zorro? Et les autres disent, mais t'es vraiment un nul. Et donc, je suis allé chez la voisine de mes parents, qui était une femme adorable. Je dis, mais écoute, voilà. Et donc, le jeudi, religieusement, j'allais voir Zorro. Oh,
la télé chez les autres ou en vacances, pas de télé chez vous?
Non, j'avais pas la télé. Je l'ai eu tard. Je l'ai eu vers 11 ans, je crois, la télé. Mais c'était magique. C'est pour ça que c'était rare.
Et quand vous regardiez Denis Fabre, vous aviez un peu peur?
Mon père m'a fait, qu'avait un esprit un peu déconneur, m'a fait croire qu'elle me voyait.
Et vous épiez à travers la...
Elle me voyait, mais arrêtez de rire, Jade. J'étais dans une maison de vacances, j'avais, je sais pas, 7-8 ans, il y avait une speakerine. Ouais. Et mon père dit, le pot de yaourt là, tu le ranges, hein? Je dis, pourquoi? Elle te voit, tu n'as pas rangé le pot de yaourt.
Oh, cette angoisse.
Et donc j'ai cru...
C'est pour faire 30 ans de thérapie. Hein.
J'ai cru que la speakerine me voyait, mais...
C'est pas le genre.
Je pense qu'il y a des gamins de mon âge qui n'avaient pas la télé. Ou alors je suis très très crédule peut-être. Hein.
Allez, on reprend ce quiz des génériques télé avec une émission qui a eu plusieurs génériques. Oui. J'ai choisi, Gilles, celui de vos 10 ans.
C'est pas genre Interville.
Bravo, Interville.
Ah, Interville.
Interville.
Le générique des années 70 d'Interville.
Ouais, c'est ça.
Présenté par Guy Lux et Léon Zitrone.
Et Simone Garnier.
Léon Zitrone, que vous adoriez également regarder aux commentaires des courses hippiques.
Quand j'ai eu la télé, tard, vers l'âge des 10-11 ans, j'ai tout regardé, tout et n'importe quoi.
Voilà, c'est ça.
Et il y avait les courses au trot à Vincennes, il y avait Auteuil, c'était le dimanche, j'ai rien. Prix d'Amérique, et une de mai, et Tidal Mpelo qui arrive.
C'est vrai qu'il était toujours très énervé.
Et il y avait Zitrone.
En pleine piste, Chaparral qui se détache comme un vainqueur infiniment probable. Non, voici que de Corse fait venir Giacao. Il reste 250 mètres à faire. Est-ce que Giacao va revenir? Chaparral a vraisemblablement... Non, il reste encore 100 mètres. Giacao vient, non, impossible. Chaparral a gagné devant Giacao deuxième et Durango troisième. Chaparral, Giacao, Durango à toute vitesse.
Il était toujours très exalté, hein, Léon Zitrone. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer ou pas?
Eh oui, parce que à mes débuts à Cognac Jay, TF1 était encore à Cognac Jay, je crois, ce monsieur qui venait mixer, c'était un vieux monsieur, il avait des morceaux de biscotte partout, là, et c'est un des souvenirs que j'ai.
Il grignotait beaucoup.
Et voilà, je sais pas, enfin là, il venait mixer quelque chose, et je me suis dit, écoute mon gars, t'auras vu Léon Zitrone.
Vous lui avez parlé?
J'ai dû lui dire bonjour, j'avais 23 ans.
Et il vous a répondu, je vous interdis de me dire bonjour.
Non, je sais pas, non, c'est...
après, paix à son âme, qu'on m'a dit que c'était quelqu'un pas forcément très sympathique, ça, mais j'en sais rien.
Il n'était pas facile. Hein.
Voilà, voilà. Mais j'ai été fasciné par la voix de Léon Zitrone et la vitesse. Et voici ma chaîne qui passe, qui va de compte de qui reparle de compte. Et le lendemain, je le voyais parce qu'il faisait tout. Il présentait le journal télévisé.
Et oui, et puis il faisait les obsèques.
Il faisait tout. Il faisait interdits, les vachettes et tout. J'ai dit, mais il a des frères jumeaux ou quoi?
C'est le thermomix de l'époque.
Il faisait tout. Il faisait tout. Je crois que c'était un peu boulimique de. Pas que de biscottes en fait. Hein.
De travail aussi.
De travail.
Place maintenant au générique d'une émission culte que vous adoriez, Gilles Boulot.
Apostrophe.
Ah ouais. Bravo, Jade. Ouais. Une pensée pour Bernard Pivot, hein, qui a annoncé il y a quelques jours son retrait de la vie médiatique à cause d'une santé défaillante. Bernard Pivot qui a enchanté vos soirées, hein, Gilles Boulot. Ouais.
Je lui dois tout le vendredi soir, 21h30. Comme des millions de gens, j'étais gamin, ado, puis grand ado, jeune adulte. C'était le savoir ludique pour tout le monde. C'est de la télé, mais au summum de ce qu'elle peut être.
Bon alors Jade, je pense que vous pouvez aller prendre un café, parce que le générique suivant, sauf mon respect, vous le trouverez jamais.
Ah bon ?
Je suis même pas sûr que Gilles Boulot le trouve.
C'est vrai, mais pourquoi
alors
vous
que
avez
c'est
fait
l'un
ça
de ses programmes préférés quand il était petit.
Oui.
Mais alors ce générique, pour le reconnaître, vous allez voir en plus, ambiance très perchée.
Oui, bien sûr.
Ah bah oui. Vous l'avez ?
Bah oui.
C'était ?
Du tac au tac.
Alors là, bravo.
Mais
non, mais quelques applaudissements.
Du tac au tac.
Vous avez répondu vous-même du tac au tac.
Alors,
je dois vous avouer, Gilles Boulot, j'avais jamais entendu parler de cette émission du tac au tac. C'était une joute entre dessinateurs.
Les plus géniaux dessinateurs, vous vous rendez compte. Il y avait Franquin, il y avait Gottlieb, il y avait Claire Bretéché, ils étaient tous là et ils se tiraient la bourre sur des jeux de dessin.
Ça a duré longtemps, ça ?
Ouais, 4-5 ans, mais c'était un peu n'importe quand, le samedi à 18h.
Oui, ils s'en débarrassaient, tu m'étonnes.
Ça.
Ça devait pas faire une grosse audience.
Alors, s'il y a des gens comme moi qui sont des nostalgiques du tac au tac, et puis ils s'adoraient les uns les autres. J'ai adoré cette émission.
Attention, dernier générique à reconnaître, lui aussi du tac au tac, s'il vous plaît.
Bien sûr. C'est Drucker, ça ?
Jade.
Non.
Jade.
Gilles, vous l'avez ?
C'est pas le film du dimanche soir ?
Bravo. Le film du dimanche soir, il est trop fort. Hein.
Le sur TF1, à l'époque. Sur TF1 à l'époque. Hein.
Exactement. Un générique composé par... Il y aura un point supplémentaire. Attention, vous avez déjà gagné.
Je sais pas, Michel Legrand.
Vladimir Cosma.
Vladimir Cosma.
C'est la boum.
Bravo, Gilles Boulot. C'est vous qui remportez ce quiz des génériques télé de très peu. Hein.
Loin.
4 à 1.
C'est bien, cette plongée dans la télé de l'enfance. Ça nous marque tellement.
Gilles Boulot, merci beaucoup d'être venu refaire la télé avec nous. On vous retrouve bien sûr dès lundi aux commandes du 20h de TF1, qui commence, rappelons-le, à 19h58.
Merci beaucoup, Gilles Boulot.
Merci, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'était super. À très bientôt.
À votre place la semaine prochaine, Ségolène Royal. Retour sur ces moments de télé les plus marquants. C'est Good Téléspectatrice. Elle nous dira tout. En attendant, le replay de cette émission est disponible sur l'application RTL. Et bien sûr, vous retrouvez tous nos bonus et vidéos sur nos réseaux sociaux dans 2 minutes. C'est le journal inattendu d'Ophélie Meunier qui reçoit aujourd'hui celui qui présentera la prochaine cérémonie des Molières sur France 3. C'est Alexis Michalik. On vous souhaite de passer un très bon week-end sur RTL.
Bon week-end, salut.